Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 38. Kit de survie au Parlement européen, Western et Brexit.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous, vous pensez bien qu'on est très excités, on fait une émission sur l'Europe et dans une semaine, il se passe enfin quelque chose, des élections. Je suis avec Maxime, qui est encore plus excité que moi. Il est ancien eurocrate, devenu auteur et il est là en plateau avec nous une fois par mois pour décrypter les enjeux européens tels qu'ils sont vécus depuis le cœur du réacteur à Bruxelles. Salut Maxime.
Salut Caroline, je suis très excité.
Ah, super. Pour cette mensuelle d'abord, je t'ai demandé de nous expliquer ce qui allait se jouer à Bruxelles après les élections. Parce qu'on nous parle de candidats, de programmes, enfin plus ou moins. On entend ces candidats débattre, mais on a du mal à saisir ce qui va se passer le lendemain des élections. Le Parlement européen, c'est un peu comme un Parlement national, mais en fait pas tout à fait. Alors à quoi vont servir ces députés? Comment et pourquoi est-ce qu'ils vont faire des alliances? Pourquoi est-ce que ça joue sur les stratégies de vote? On s'est dit qu'il était peut-être temps et que c'était pas mal d'avoir ces infos à une semaine de l'échéance. Et comme dit comme ça, ça fait un peu peur, on a décidé d'appeler ça le kit de survie du nouveau député européen. Ce sera dans la première partie de l'émission. Et puis dans la deuxième partie, on a décidé de s'emparer d'un sujet pas mal inédit sur lequel on va vous faire de grandes révélations, le Brexit.
Full Continental sur France Inter.
Mais d'abord, on termine notre tour de table des candidats pour le poste de président de la Commission européenne. Chaque mois, Maxime, tu es venu ici pour nous dire que cette compétition, ça pouvait être excitant comme un épisode de House of Cards. Et on avait envie de te croire. Moi, j'avoue que tout est devenu plus concret quand tu m'as envoyé un lien vers un débat organisé entre les 6 candidats à la présidence de la Commission. Donc, 6 groupes, 6 nationalités. C'était il y a une semaine ou deux. Ça s'appelle le débat de Maastricht.
Mr. Timmermans, it sounds like you already appropriately answered that question.
Thank you, boss, for that support. That's a good idea.
Bon, et alors, t'en as pensé quoi? Est-ce que ça collait au portrait qu'on avait fait ou pas du tout?
Alors, franchement, oui. J'avais un peu l'impression de rencontrer les membres de famille lointaines dont on m'aurait beaucoup parlé. Un vieil oncle conservateur, un autre qui fait beaucoup trop de blagues, un cousin écolo, une vieille tante un peu perdue.
Est-ce que c'était fun à regarder?
Et c'était assez étonnant, c'était rythmé. Ils avaient tous une minute maximum pour répondre aux questions. Et franchement, en une minute, même en y mettant du sien, c'est dur d'être ennuyeux. Il y avait des petits clashs et aussi donc des blagues, comme quand Timmermans, le candidat de la gauche, dit aux conservateurs qu'il est un dinosaure sur la question des énergies fossiles et que le conservateur répond que ça tombe bien parce qu'il a toujours aimé Jurassic Park. On sent qu'il se donne du mal et les étudiants Erasmus invités dans la salle sont à fond. Mais ça n'a pas fait une grosse audience. Qui en a entendu parler de ce débat? Je ne sais pas. À ce jour, il a fait 180 000 vues sur YouTube. Sur les 500 millions d'Européens, c'est pas fou.
Attends, essaie de vendre des livres, tu verras. 180 000 ventes, c'est quand même très honorable.
Et alors sur scène, à la gauche de la gauche, dans ce débat, il y avait une candidate qui avait l'air pas super à l'aise. C'est de son groupe que tu vas parler aujourd'hui, Maxime. On continue notre galerie de portraits de l'hémicycle européen. Alors après les Verts, les centristes, la gauche, la droite, Maxime, aujourd'hui, on parle de ceux qui siègent à la gauche de la gauche au Parlement européen.
Alors la gauche de la gauche, c'est le territoire de la GUE. La GUE, c'est l'acronyme pour la gauche unitaire européenne. C'est le groupe qui accueille, entre autres, les Insoumis, les partis communistes d'Europe, le gouvernement grec d'Alexis Tsipras et les membres espagnols de Podemos. Et du point de vue vestimentaire, c'est très intéressant la GUE parce que c'est un mix entre des vieux politiciens à moustache habillés comme à Berlin-Est dans les années 70 et des jeunes indignés qui portent des jeans et des bracelets brésiliens.
Mais c'est qui leur candidat pour la tête de la commission?
Alors ils en ont plusieurs, il y a la dame que tu as vue dans le débat, une Slovène, il y a aussi Nico Cué, un syndicaliste wallon, mais personne ne les connaît vraiment ces deux-là. Et moi, à mon avis, le vrai candidat de la gauche radicale européenne, c'est Yanis Varoufakis, tu t'en souviendras, il a été ministre des Finances de la Grèce au plus haut de la crise de l'euro et il tranchait avec ses collègues ministres des Finances dans les réunions de l'Eurogroupe. Lui, c'était le ministre en blouson de cuir qui débarquait à des réunions monté sur une grosse bécane.
C'est celui qui fait frémir les jeunes filles à bracelets brésiliens, mais aussi leur mère, leur grand-mère et leurs copains. Et donc lui, c'est le candidat informel de la gauche de la gauche.
C'est ça. Et lui, il a décidé de faire une campagne transnationale. D'ailleurs, il n'est pas candidat en Grèce, mais en Allemagne. Comme un bras d'honneur, ce qui est possible quand tu es européen, tu peux te présenter à tous les pays européens. Et donc lui, il a décidé de se présenter en Allemagne un peu comme un bras d'honneur à la politique d'austérité qu'incarnerait ce pays. Les mauvaises langues disent aussi que s'il se présente en Allemagne, c'est qu'il a plus de chances d'être élu qu'en Grèce à cause des règles électorales.
Parce qu'il faut un seul pourcent.
Il faut quasiment 1% en Allemagne pour avoir un élu.
Alors moi, ça me fait penser à un épisode de Foule Continentale. On avait rencontré un militant du mouvement qu'il a créé, Diem 25. C'est un mouvement citoyen qui a été mis en place il y a 3 ans et qui propose donc de créer des listes transnationales. Le projet n'a pas tout à fait abouti, mais en tout cas, eux, ce qu'ils disaient, c'est que si l'Europe ne devient pas plus démocratique, elle va disparaître. Et donc, Yanis Varoufakis, si tu devais le comparer à un personnage de fiction, tu dirais qui ?
Pour moi, Varoufakis, c'est un personnage de western. Yanis Varoufakis, c'est un peu Charles Bronson, dans Le joueur d'harmonica dont Il était une fois dans l'Ouest, le film de Sergio Leone. Le storytelling de Varoufakis, il est simple. Bruxelles City est une ville corrompue, et lui, l'étranger, l'outsider, il débarque du train pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et comme dans un bon western, la méthode Varoufakis, c'est la confrontation. Quand t'es en face du shérif ou de la Commission européenne, d'abord tu sors ton flingue, et après tu causes.
Et ça marche ?
Moyen en fait. Pendant la crise grecque, Varoufakis avait tenté un coup de poker à la table de l'Eurogroupe. Il était l'un des artisans du référendum grec sur le plan de sauvetage de 2015. Mmh. Il avait gagné le référendum, mais son coup de bluff avait un peu foiré. Les autres ministres des Finances européens n'avaient pas bougé d'un cil. Et il s'est même fait lâcher par son premier ministre, par son propre parti, et celui d'Alexis Tsipras. Bref, la brute Varoufakis est repartie un peu à poil du salon européen.
Moi j'aime bien cette idée, en tout cas si le Parlement européen c'est le Far West, on va voir tout de suite comment on peut survivre quand on est député et qu'on débarque dans ce Wild Wild West européen.
Foule continentale sur France Inter.
Je me souviens de la première fois que je suis rentrée dans le Parlement européen. J'avais un rendez-vous de travail dans un bureau avec je ne sais plus trop qui pour une interview. J'étais un peu concentrée sur mes notes. J'étais sûrement un peu en retard et j'avais pas complètement réfléchi au truc. Au fait qu'en vrai, ça m'arrivait pas tous les jours d'entrer dans un Parlement. Et on s'en rend pas compte tout de suite parce que, en plus, le bâtiment, il est grand, il est assez froid, il est impersonnel. Mais au niveau des ascenseurs, j'ai commencé à repérer un truc étonnant. Alors, ça va paraître évident, mais tout le monde autour de moi parlait des langues différentes. Tout était écrit partout avec des symboles et des lettres pour être lisible par tous. En fait, j'ai levé la tête de mon téléphone et je me suis laissé prendre au jeu. C'est fou, ce projet est totalement mégalo. On a mis des gens de 28 pays différents et on leur a dit de se parler et de travailler ensemble. Et ce projet-là, on l'oublie assez vite, sauf quand on a la chance de visiter ces lieux à Strasbourg ou à Bruxelles pour une interview ou un voyage scolaire. Et une fois tous les 5 ans, quand un pote espagnol ou un ex-roumain, ou tous les gens que moi personnellement j'ai rencontrés en reportage, vont se retrouver à être appelés plus ou moins en même temps aux urnes pour vivre cette expérience commune, les élections européennes. Alors, est-ce que l'Union européenne est assez démocratique ? Ça, c'est une autre question qu'on a souvent abordée ici dans l'émission. Idem pour l'abstention, le désamour, efficace ou pas, représentatif ou pas. Il n'empêche que le vote, c'est dans une semaine. Et dans ce bout d'émission, on va tenter de comprendre comment il marche, ce Parlement. Maxime, tu as arpenté les couloirs du Parlement européen pendant plusieurs années. Et je t'ai demandé de monter un kit de survie, ce à quoi tu m'as répondu. Super, on n'a qu'à imaginer que toi, Caroline, t'es élue au Parlement européen.
Et je t'avais demandé de réfléchir à quel parti est-ce que t'aurais appartenu, sur quel programme est-ce que tu t'es fait élire, et du coup, qu'est-ce que t'as choisi ?
Pour faire simple, mon parti pourrait s'appeler Foule Continentale, parce que c'est bien connu, quand il n'y a pas le mot Europe dans le titre, c'est plus attractif.
Efficace.
Voilà, et puis le slogan, ça pourrait être Yoga et crustacés. Moi, je déteste le yoga, mais je me suis dit que ça fait bien, ça fait sain, ça fait vert, ça peut convaincre. Et puis j'adore les fruits de mer, et ça aussi, ça rassemble.
Bon, alors, on dit que t'as été élu le 26 mai sur le slogan Yoga et crustacés.
Voilà.
La première chose à faire pour toi, c'est de prendre un train pour Bruxelles.
D'accord.
Tu arrives au Parlement européen, tu te fais faire un badge de député, tu passes la sécurité, on te monte ton bureau. Et là, la toute première étape va être de trouver des copains. Parce qu'au Parlement européen, tu seras avec plus de 700 autres députés, et tous ne te veulent pas du bien. Tous n'aiment pas les crustacés, et encore moins le yoga. Donc, c'est comme quand tu rentres en prison, il faut choisir un gang. Au Parlement, on appelle ça un groupe politique. C'est la droite, la gauche, les verts, les libéraux, etc. Mais il faut bien choisir, parce que tous les groupes n'ont pas la même taille. Il y a d'abord les gros balèzes, qui font parler le nombre, comme le centre droit ou le centre gauche. Ensuite, il y a les petits malins qui pèsent moins lourd, mais qui sont dans tous les bons coups, comme les centristes. Il y a aussi ceux qui sont petits, mais qui crient très fort pour se faire entendre, comme les verts. Et enfin, il y a ceux qui se mêlent pas trop avec les autres, ceux qui sont dans une aile un peu à part du bâtiment, par exemple, le groupe d'extrême droite.
Ok. Et après, je fais quoi ?
Bon, donc là, tu choisis quel gang ?
Je suis obligée de choisir ?
Non. Tu peux aussi être non inscrite, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de ne pas s'inscrire dans un groupe politique, mais tu vas être avec une bande de sacrés marlous. T'as tout ce dont tout le monde a peur, les néo-nazis allemands, les néo-nazis grecs, et même Jean-Marie Le Pen. Et c'est pas dit que tu prennes pas de coups non plus. En 2016, deux Anglais aujourd'hui non inscrits se sont battus dans le Parlement. Ouais, l'un mis un coup de poing à l'autre, qui s'est retrouvé KO devant l'hémicycle. Tu vois, c'est pas de tout repos les non inscrits.
D'accord. Bon, y a combien de groupes ou de gangs parlementaires en tout ?
Alors, en ce moment, il y en a 8, mais ça peut bouger. Tout dépend du choix des électeurs la semaine prochaine. Les cartes peuvent être rebattues après le 26 mai. Et il y a déjà des inconnus. Est-ce que Viktor Orban restera avec le centre droit, alors que lui est déjà très très à droite? Est-ce que le groupe créé par les conservateurs britanniques survivra au Brexit après leur départ? Est-ce que Tsipras restera dans le groupe de la gauche révolutionnaire, alors que, comme on l'a dit, il a accepté toutes les réformes de l'Eurogroupe et a décidé de dégager Varoufakis? On verra tout ça après le 26 mai. Il va y avoir un long mois de négociations, de calculs, de tractations, jusqu'au 2 juillet, date de la première session officielle du Parlement, où tout sera plus ou moins fixé.
Bon, et à part me défendre dans les couloirs, à quoi ça va me servir un groupe politique?
Dans la vie parlementaire, dans ton quotidien d'eurodéputé, appartenir à un groupe, ça a plein d'avantages. C'est José Luis Pacheco qui me les a énumérés. Alors Pacheco, il est chef du secrétariat de la Commission Affaires Constitutionnelles, il connaît bien les règles du jeu, et il m'a expliqué pourquoi les députés européens ont intérêt à se mettre en groupe.
Ça donne des avantages de différents types. D'abord, ça leur donne le pouvoir d'influencer, par exemple, l'agenda du Parlement. Ça leur permet de prendre des positions politiques en bloc qui pèsent sur la décision finale. Quand on distribue le temps de parole, par exemple, c'est en fonction d'abord des groupes politiques, de la taille des groupes politiques. Vous avez plus de chances de participer dans des commissions parlementaires, de recevoir des rapports à faire, d'être élu pour des postes au Parlement, parce que comme ils sont organisés en groupe, ceux qui n'appartiennent pas en groupe ont moins de chances de percer, disons-le comme ça. D'un autre côté, il faut voir si vous êtes un député, simple député dans un groupe très grand, ce sera aussi une bataille à l'intérieur du groupe pour pouvoir exercer ses droits.
Bon, il y avait plein de choses dans cet extrait, on n'a pas tout compris. On va les prendre dans l'ordre et voir ce qui se passerait pour quelqu'un comme moi qui vient de se faire élire et qui débarque à Bruxelles. Pacheco parlait notamment de commission parlementaire. C'est quoi ça?
Alors ça, c'est la deuxième étape. Donc on est d'accord, tu as trouvé ton groupe politique.
J'ai trouvé mon groupe.
Maintenant, il va falloir choisir une commission parlementaire, c'est-à-dire une matière sur laquelle tu veux t'investir, tu veux bosser, par exemple les transports, l'économie ou la culture. Et tu as droit à deux choix, mais il se peut que d'autres députés de ton groupe veulent les mêmes commissions parlementaires que toi. Et donc là aussi, il va déjà falloir se battre.
Ok, bon, et donc disons que j'ai fait ma wishlist de commissions parlementaires. Il y en a combien en tout des commissions?
Il y en a une vingtaine, et toi tu t'es fait élire sur un programme yoga et crustacés. Oui. À ta place, je prendrai la commission affaires étrangères et la commission de la pêche.
Alors la pêche, je vois, mais affaires étrangères, c'est quoi le rapport avec le yoga?
Dans la commission affaires étrangères, t'as plus de chances, à mon avis, de partir en Inde. Mais tu fais ce que tu veux.
Mais y a pas une commission pour sauver le climat, plutôt?
Si c'est ça qui t'intéresse, oui, il y a une commission de l'environnement, mais elle est très demandée. Disons que pour les besoins de la fiction, aujourd'hui, on dit banco, t'as du bol, tu deviens membre de la commission de l'environnement.
Merci.
Et là, il y aura tous les autres députés des autres groupes politiques qui ont choisi de travailler sur les questions climatiques.
Ok, donc j'ai trouvé un groupe, j'ai trouvé une commission, et après, il se passe quoi?
Maintenant, il faut encore se battre pour avoir des rapports, pour avoir des dossiers. Disons que pendant ta campagne Yoga et Crustacés, tu as promis de remplacer le diesel par du jus de crevette.
Oui.
Bon, eh bien, tu vas proposer l'idée à tes collègues députés, et s'ils sont d'accord, on rédigera un rapport parlementaire. C'est encore à José Luis Pacheco que j'ai demandé. Qu'est-ce que c'était qu'un rapport parlementaire?
La proposition ou l'idée d'un député de faire quelque chose dans un certain domaine est lancée. On pourrait prendre ça et aller en plénière tout de suite et chacun voter comme il veut, mais ça n'aurait pas de cohérence, ça n'aurait pas de logique. Donc, pratiquement tout passe par une commission parlementaire, elles sont organisées en fonction des matières différentes. Donc, il arrive entre une proposition législative en matière de transport. Ça va à la commission des transports. Puis la commission des transports, on choisit quelqu'un, un rapporteur, pour rédiger l'opinion de cette commission parlementaire sur ce qui doit être fait sur cette proposition. S'il faut la modifier, comment, non, si on l'accepte, si on la rejette, s'il faut ajouter des choses, etc. Or, cette personne, le rapporteur, il dirige les travaux de la commission là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est son texte personnel à la fin qui est adopté. Mais bon, un bon rapporteur, il se met en contact avec les autres groupes politiques, il cherche à trouver une majorité et il rédige un texte qui lui permet de recueillir la majorité des voix et d'aller en plénière et avoir du succès. Donc il canalise, disons, les différentes opinions politiques de façon à qu'il s'exprime une volonté que la majorité du Parlement peut accepter. Donc son rôle est très important sur cette matière, parce qu'en fait, il est le guide.
Bon bah disons que j'ai négocié, j'ai fait des coudes, et je suis rapporteur, je suis le guide. Comment je fais pour trouver une majorité pour faire passer mes moteurs à jus de crevette par la commission?
Alors normalement, chaque groupe politique a désigné quelqu'un pour venir discuter avec toi. Donc tu vas faire des réunions à 6 ou 7 ou 8 avec les négociateurs des autres groupes, et tu vas essayer de les convaincre. Prenons l'exemple de ton rapport sur le remplacement du diesel par du jus de crevette. Bon, eh bien, tu diras que le jus de crevette va permettre de créer des emplois. Mm-hmm. Comme ça, les socialistes suivront. Ensuite, tu vas dire que le remplacement du diesel par le jus de crevette va permettre de réduire les émissions de CO2. Comme ça, tu auras gagné les Verts. Mais les socialistes et les Verts, ça peut ne pas être assez. Il faudra alors aller voir d'autres groupes plus à droite.
Pourquoi ?
Parce qu'au Parlement européen, il faut au moins 3, voire 4 groupes pour faire une majorité. C'est pas comme au Parlement français où il y a un parti qui domine. À Bruxelles, il faut la jouer fine, il faut faire des compromis et faire des alliances qui sont plutôt larges, donc t'auras besoin de la droite.
Donc en fait, on peut dire que les petits partis, ils pèsent pas mal finalement. Enfin, on est obligé de les draguer en tout cas pour faire une majorité.
Ah oui, le Parlement européen, c'est un terrain de jeu pour les petits malins. À mon avis, un député européen un peu débrouillard a plus de marge de manœuvre qu'un député français et peut-être même plus de pouvoir parce qu'il fait la loi pour 500 millions d'Européens. Mais si on revient à ton rapport sur les moteurs à jus de crevette,
voilà.
Tu as la gauche et les Verts, c'est bien, mais donc il te faut aussi la droite. Et tu vas dire, pour les convaincre, que le jus de crevette va remplacer le diesel, mais d'ici 2050, comme ça l'industrie du diesel n'aura pas peur, et là tu peux avoir une majorité dans ta commission parlementaire. Bravo Caroline.
Eh ben génial, donc mon rapport est tout modifié, mais c'est gagné, il est adopté.
Alors il est adopté, mais en commission parlementaire, et c'est que le début des galères, parce que maintenant, il faut que ton rapport soit voté en session plénière par les autres 750 députés. Et pour ça, il faut que tu ailles évidemment
à Strasbourg,
parce que, bien joué, les commissions parlementaires se réunissent à Bruxelles, alors que le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg. Donc c'est là qu'on vote les textes.
Donc en tout, c'est un peu la course d'obstacles, quoi.
C'est une course d'obstacles, il y a des coups bas, des retournements, des changements d'alliance, tout ça en 23 langues. C'est un peu comme dans Game of Thrones. Moi, j'ai toujours été convaincu que c'était passionnant, mais je pensais que ça n'amusait que moi, jusqu'à ce que je rencontre Noé Debré. Il est créateur d'une série en cours d'écriture sur le Parlement européen qui sera diffusée par France Télévisions. Et il me racontait pourquoi, selon lui, il n'y avait jamais eu de fiction sur l'Union européenne, alors que moi je trouve ça passionnant. On l'écoute, c'est Noé Debré, il est scénariste.
À mon avis, la raison majeure, c'est que Bruxelles, en tout cas l'Union européenne, déteste le conflit. En tout cas, déteste le conflit apparent. Donc tout se fait à Bruxelles sous les formes d'un compromis. Et donc les conflits sont là, mais ils sont larvés. Or, la fiction se nourrit du conflit. Donc on ne peut pas se dire, comme aux États-Unis, on va montrer les républicains contre les démocrates, ou en France, on va montrer la droite contre la gauche, parce qu'en fait, rien ne s'établit jamais de cette manière, quoi. Et donc c'est ça qui est passionnant, c'est que tous ces conflits qui, en fait, sont là, il s'agit de les déterrer. Et je pense que ça explique en partie la raison pour laquelle il n'y a pas eu de série, ou en tout cas à ma connaissance.
Et pourquoi est-ce que France Télévisions a dit oui? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on s'est dit, tiens, ça peut intéresser les gens? Pourquoi quelqu'un fait le pari de cette série?
Je pense que quelque chose qui a beaucoup aidé, c'est le Brexit, comme sur tout le reste. Ça veut dire, en fait, le Brexit, c'est devenu un sujet tellement urgent. Là, pour le coup, le conflit est super apparent. Donc, tout d'un coup, on découvre des personnages, on découvre des lieux, on découvre des enjeux, on les comprend, etc. Donc ça, je pense que ça a beaucoup aidé.
Et bien justement, nous aussi, on va utiliser cette super stratégie du Brexit pour vous garder à l'écoute. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler du conflit entre Bruxelles et Londres. Mais d'abord, voilà un disque tout trouvé par Djoubaka, Vote for Me, The Specials.
Thank you. You're also drunk on money and power. Inside your ivory tower, teaching us not to be smart. Making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart.
Continental sur la RTBF La Première et sur France Inter une fois par mois. On voulait une guest star dans cette émission pour nous aider à comprendre les codes du Far West, des institutions européennes. La guest star porte une chemise noire, c'est l'ancien eurocrate et auteur de polar Maxime Caligaro.
Pardon.
On a les invités qu'on mérite, les autres étaient à Cannes. Si vous étiez là à l'instant avant le disque, on vient de voir comment fonctionne le Parlement européen parce qu'on est appelé aux urnes la semaine prochaine et qu'il restait pas mal de flou. Autre gros dossier dans lequel on se perd, le Brexit. On nous a annoncé 15 fois qu'il y avait un accord, puis en fait non, puis en fait si. Et moi, il y a quelques semaines, je suis allée à Londres et j'ai rencontré Antoine Gignot, le correspondant de Radio France là-bas. Alors, il m'a invité à manger des muffins et à boire du thé chez lui. Il habite juste derrière la gare de King's Cross et il a proposé de me ramener à mon train de retour pour Paris. Alors on est parti un peu en retard, on a marché d'un pas confiant, ce qui à nos âges nous essouffle. Et j'ai profité qu'il ne reste que 5 minutes avant le départ du train pour l'acculer et lui poser cette question. Tu résumerais comment cette histoire de Brexit si tu avais 5 minutes?
En vrai, c'est simple. Quand moi, je suis arrivé ici, au lendemain du référendum en 2016, au mois de septembre, Theresa May était censée réunir tout son gouvernement à Chequers, dans la résidence secondaire des premiers ministres, et faire une sorte de séminaire où ils étaient censés se mettre d'accord. Tous ceux qui voulaient un Brexit plutôt soft, et puis de l'autre côté, tous les Brexiteurs un peu plus durs, tous ces gens-là étaient censés s'enfermer pendant 2 jours et sortir avec le plan de bataille. On est 2 ans et demi après, et le plan de bataille, il n'existe pas. C'est ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, pour ne pas se diviser, pour ne pas diviser le Parti conservateur, a refusé pendant 2 ans et demi de choisir, et que, à force de mettre ensemble des gens qui avaient des buts opposés, c'est-à-dire fermer les frontières pour contrôler l'immigration, mais en même temps garder un accès aux frontières pour pouvoir continuer à faire du commerce avec l'Europe, en cherchant à concilier l'inconciliable, on est arrivé dans le mur, mais on y est arrivé très tard, parce qu'on a repoussé le moment où il fallait choisir jusqu'à ce qu'on puisse plus, et jusqu'à ce que l'Europe dise, bah non, maintenant, il faut choisir. Et quand Michel Barnier, qui négocie au nom des 27, dit, bah la solution, elle est en Angleterre, il a raison, parce que finalement, si une position de principe, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire soit on coupe tous les ponts, soit on reste proche de l'Union européenne, avait été prise dès le début, ben on n'aurait pas ce problème-là aujourd'hui. La seule majorité qu'il y a au Parlement, c'est pour dire on veut pas de sortie sans accord du tout. Mais il n'y a aucune solution, il n'y a aucun plan B, en fait.
Donc le Brexit, selon Antoine, c'est super simple, mais en fait, c'est pas simple du tout.
Et encore, ce que ton copain Antoine raconte, c'est juste l'épisode 167 de la saga du Brexit. Moi, un copain fonctionnaire européen me disait que, pour lui, le Brexit, c'est un peu comme les feux de l'amour ou Plus belle la vie. Si tu loupes un épisode, en vrai, c'est pas grave. C'est toujours plus ou moins la même chose. Et il m'a conseillé d'attendre que ce soit fini et d'acheter le coffret en DVD pour comprendre quelque chose, mais a posteriori.
Bon, mais quand même, on aimerait bien là comprendre un peu ce qui s'est passé. Je t'ai demandé de faire un résumé rapide des saisons précédentes. Et donc, la série Brexit, elle commencerait quand pour toi? Tu me disais que la scène d'ouverture, ça pourrait être la Sicile dans les années 50.
Voilà, dans la ville de Messine, parce que c'est là qu'en 1955, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs de l'Union européenne se réunissent pour discuter ce qui deviendra l'Europe, le marché commun européen. Le Royaume-Uni avait reçu une invitation, mais il a décidé à l'époque de ne pas l'honorer.
Un peu comme quand tu dis « attending » ou « je participe sur Facebook » et qu'en fait tu viens pas.
On sent l'expérience. C'est un peu ça, mais moi je me mets à la place du Royaume-Uni de l'époque. Les Britanniques sont alors les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont un empire colonial gigantesque. Ils parlent presque d'égal à égal avec les États-Unis et l'URSS. Et donc, ils voient pas franchement l'intérêt de se lancer dans un projet d'intégration politique avec les losers de la première moitié du XXe siècle, des Allemands battus, des Belges envahis, des Français qui avaient abandonné Paris et des Italiens qui avaient passé leur temps à retourner leur veste. Mais très vite, le petit projet politique européen prend de la vitesse. Les Britanniques tentent de le torpiller en créant une Europe concurrente, une Europe du libre-échange avec les Suisses et les Scandinaves. Mais ça se casse la figure, enfin ça marche pas très bien. L'Europe décise, elle, s'impose et les Britanniques se disent qu'ils sont en train de louper le coche. Finalement, ils posent leur candidature pour entrer dans l'Europe.
Et là, le général de Gaulle dit non. Et comme c'est toujours savoureux de l'entendre, lui laisser long silence qui grésille, on a décidé de vous passer son verdict sur les Anglais d'il y a un demi-siècle.
La Grande-Bretagne a posé sa candidature au marché commun. Elle l'a fait après s'être naguère refusé à participer à la communauté qu'on était en train de bâtir. Cela pose sans aucun doute à chacun des 6 États, et ça pose à l'Angleterre, des problèmes d'une très grande dimension. L'Angleterre, en effet, elle, est insulaire, elle est maritime, elle est liée par ses échanges, ses marchés, son ravitaillement aux pays les plus divers et souvent les plus lointains. Elle exerce une activité essentiellement industrielle et commerciale et très peu agricole. Elle a dans tout son travail des habitudes et des traditions très marquées, très originales. Bref, la nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux.
Et donc il faudra attendre le départ du général de Gaulle pour que la candidature du Royaume-Uni soit acceptée. Mais donc ce que dit de Gaulle dans cet extrait, c'est qu'on est vraiment trop différents pour être ensemble.
Voilà. Ce qu'il ne dit pas, mais en revanche qu'il pense très fort, c'est que les Britanniques sont aussi capables de tout saboter de l'intérieur. Et les accepter dans l'Europe, c'est carrément faire entrer le loup dans la bergerie. Et il n'avait pas franchement tort. J'ai retrouvé une série anglaise du milieu des années 80 qui s'appelle Yes Minister et qui, à mon avis, est assez révélatrice de la position britannique sur l'Europe. Dans l'épisode dont on va entendre un extrait, l'administration britannique veut faire adopter une loi très impopulaire au Royaume-Uni et la mettre sur le dos de Bruxelles. Un diplomate anglais explique la manœuvre à son ministre qui, lui, est un peu pro-européen mais surtout très naïf.
Mais nos diplomates réalisent-ils les dégâts dans l'opinion publique?
Je suis sûr que oui. C'est pour ça qu'ils la soutiennent.
Comment? Mais nos diplomates sont pro-européens, n'est-ce pas?
Oui et non.
Je m'explique. Les diplomates britanniques sont pro-européens parce qu'ils sont en réalité anti-européens. L'administration britannique tout entière est unie derrière l'idée de faire capoter le projet européen. Et c'est pour ça que nous avons tout fait pour y rentrer.
Qu'est-ce que vous racontez?
Le Royaume-Uni a la même politique étrangère depuis 500 ans. Créer une Europe désunie. Pour ce faire, nous avons combattu avec les Hollandais contre les Espagnols, avec les Allemands contre les Français, avec les Français et les Italiens contre les Allemands, et avec les Français contre les Allemands et les Italiens. Divisés pour mieux régner, monsieur le ministre. Pourquoi changer maintenant? Ça marche si bien.
Enfin, c'est de l'histoire ancienne, tout ça.
Mais aussi notre politique actuelle. On doit détruire l'Europe par tous les moyens. Et donc, on doit être dedans. On a essayé de détruire la machine de l'extérieur, mais ça n'a pas marché. Maintenant qu'on est à l'intérieur, on peut tout saboter joyeusement et mettre les Européens les uns contre les autres. Les Allemands contre les Français contre les Italiens contre les Hollandais. Nos diplomates se régalent. Bon vieux temps.
Non, on est tous unis autour de l'idéal européen.
Vraiment, monsieur le ministre?
Si ce n'est pas le cas, pourquoi on se bat pour que plus de pays rentrent dans l'Union?
Pour la même raison. C'est un peu comme les Nations Unies. Plus il y a de pays, plus c'est facile de semer la zizanie. Les débats s'embourbent et au final, on décide rien, c'est la paralysie totale.
Mais c'est du cynisme à l'état pur.
On appelle ça la diplomatie, monsieur le ministre.
Merci infiniment à Guillaume Meurice et Alex Vizorek pour leur brillante interprétation britannique. C'est encore vraiment beaucoup plus drôle et ridicule que l'original. Mais donc cet extrait, ça me rappelle un édito de Dominique Seux que j'avais entendu un matin sur France Inter après un énième sommet sur le Brexit et un énième report. Il disait qu'avec la menace du Brexit permanent, la diplomatie anglaise avait réalisé son rêve. Paralyser l'Union, ça fait 2 ans que toute l'énergie européenne est occupée à régler cette histoire de Brexit. Pour lui, le Brexit, c'était en fait un coup de génie. Il disait qu'on pouvait peut-être même y voir peut-être un complot anglais.
Bah moi, cet édito de Dominique Seux m'a rappelé un dicton anglais, justement, qui me sert de boussole à l'ère du doute généralisé. Is it a conspiracy or is it a cock-up? Est-ce qu'on a affaire à un complot ou est-ce que c'est juste parti en brioche? Et dans le cas du Brexit, quand on voit la tournure des négociations, moi je penche plutôt du côté d'une grosse bourde de la classe politique anglaise, parce qu'en vérité, personne ne s'attendait au résultat, et personne aujourd'hui ne sait quoi en faire.
Oui, ça c'est assez flagrant en regardant le documentaire Brexit, The Clock is Ticking, pour lequel un réalisateur a suivi Michel Barnier pendant les 2 dernières années de négociations. On va écouter un extrait dans lequel on entend un eurocrate britannique qui pose un peu le contexte.
Un référendum est fatalement binaire. Oui, non, dedans, dehors, rester, partir. C'était la question posée, et c'est celle à laquelle les gens ont répondu. La question qui vient juste après, bien sûr, c'est à quel genre de Brexit allons-nous avoir droit? Comment sera-t-il mis en place? Quand? Sous quelles conditions?
Ce seront bien là les questions que se posent les députés britanniques alors qu'ils doivent confirmer la décision de quitter l'Union européenne. En février 2017, ils auditionnent donc l'un des meilleurs connaisseurs des arcanes de Bruxelles, le Britannique Jonathan Fall, ex-porte-parole de la Commission.
Is it realistic to think that we can get an agreement in 1 year?
Sait-on dans quel délai on pourrait trouver un accord avec les Européens? Est-ce qu'un an pour un accord, c'est jouable? En face, l'eurocrate britannique répond avec flegme en donnant l'exemple des accords commerciaux avec le Canada. Alors le Britannique dit « Mais ça a mis combien de temps ?» Le mec de la Commission répond « Eh bien, c'est toujours pas terminé, en fait. Ça fait 7 ans. En tout cas, le Brexit, ça a pas mal changé l'image que j'avais de l'administration européenne. Pour une fois, ils avaient l'air d'avoir un peu de panache, un peu d'esprit d'équipe dans ces négociations face aux Britanniques.
Bah, les gens ne le savent pas, mais en réalité, l'administration européenne, c'est une machine très bien huilée. Mais il faut avouer que sur ce dossier du Brexit, il y a quand même eu la Barnier's touch.
Ah, c'est la quoi la méthode Barnier?
La méthode Barnier, je discutais avec un membre de son équipe qui me disait que les 3 grands principes de Michel Barnier pendant le Brexit, ça avait été expliquer pour éviter les malentendus et s'assurer le soutien de tout le monde.
Et dans un autre documentaire sur le Brexit, Barnier a d'ailleurs été baptisé le roi du PowerPoint, ce qui fait rêver.
Et ces slides, ces PowerPoints, ils ont fait plusieurs fois le tour du continent. Il a fait 4 fois le tour des capitales européennes. 1 fois par semaine en moyenne, il rencontrait les parlementaires européens. Il est allé plus de 30 fois dans les parlements nationaux pour expliquer les enjeux du Brexit. Alors que de son côté, Theresa May et l'équipe anglaise, ils ont fait leurs négociations un peu dans leur coin, sans prendre le temps d'expliquer les positions aux parlementaires. Résultat aujourd'hui, il n'y a pas de majorité autour de l'accord de retrait.
Bon, donc pour connaître la fin du Brexit, on attend la saison 8. Moi, en regardant cet extrait de documentaire sur Michel Barnier, quand j'entendais parler ce fonctionnaire anglais de la Commission européenne, je me suis demandé, mais en fait, il va se passer quoi avec les centaines, les milliers d'eurocrates britanniques? Est-ce qu'ils sont tous virés? Ils vont tous devoir quitter Bruxelles? Je t'ai demandé de mener l'enquête, parce que j'adore t'envoyer en mission.
Alors à Bruxelles, tout le monde s'est posé la question du sort des collègues anglais. Je me souviens, dans les jours qui ont suivi le vote du Brexit, je bossais encore au Parlement européen, on avait reçu un email des présidents des institutions disant qu'ils feraient tout pour préserver les droits des Britanniques. Mais le fait même de recevoir cet email montrait que les copains anglais étaient sur la sellette. Beaucoup ont très vite essayé de prendre la nationalité belge pour ne pas être expulsés. C'est le cas de Laura Rainer, une Écossaise qui travaillait au Parlement européen. Elle m'a raconté son histoire et comment elle avait vécu le Brexit depuis Bruxelles.
Quand j'ai emménagé en Belgique en 2009, j'ai rencontré dans le bureau à côté du mien l'homme qui est ensuite devenu mon mari et le père de nos 3 enfants. Lui est belge néerlandophone. Et puis en 2016, il y a eu le référendum du Brexit. Et les résultats sont tombés vers 5 ou 6 heures du matin. Dès qu'on a su, on s'est rendu à la commune pour voir comment je pouvais obtenir la nationalité belge. Et à 9h moins 5, on était déjà devant la commune à attendre que les bureaux ouvrent. juste parce que, vous savez, on était sûr que le Brexit allait amener des incertitudes. Et on voulait être certain que je pourrais rester dans le pays avec mon mari et mes enfants.
Et la règle, alors toi t'es déjà belge donc tu le sais pas, mais la règle c'est que pour devenir belge, ça existe, il faut être résident pendant au moins 5 ans dans le pays de façon légale. Et c'était le cas de Laura Reiner, mais elle s'est rendue compte alors qu'elle faisait les démarches qu'il y avait une entourloupe et une exception pour les fonctionnaires européens. Voilà ce qu'elle m'a expliqué.
On a mis quelques mois à rassembler tous les documents dont j'avais besoin. Il fallait que je prouve que j'avais travaillé un certain nombre d'heures, que j'avais un contrat, que je parlais la langue, etc. Tout ça, c'était bon, mais quand j'ai commencé le processus, on m'a dit que ça allait coincer. Même si les fonctionnaires belges pouvaient voir sur leur système informatique que je vivais depuis 7 ans en Belgique, ils m'ont dit que je n'avais pas la bonne carte d'identité. En effet, j'avais une carte d'identité belge, mais délivrée par le Parlement européen. Et c'est la carte que reçoivent tous les fonctionnaires européens. Les employés de la commune m'ont dit que cette carte d'identité spéciale n'était pas valable et que je devais attendre encore 5 ans, mais avec une autre carte d'identité. En fait, selon la loi belge, il existe une liste de documents que l'on peut présenter pour prouver qu'on réside dans le pays. Mais pour une raison que j'ignore, cette carte d'identité pour les fonctionnaires européens n'était pas dans cette liste. J'imagine que c'est un oubli, parce qu'on peut utiliser presque n'importe quel autre document, mais celui-là, non, on ne peut pas s'en servir. Et ce que mon avocat a répondu, ce que nous leur avons dit, c'est que oui, tout ça c'est bien joli, mais ça s'oppose complètement à l'esprit de la loi européenne de libre circulation des personnes. Donc peut-être que l'État belge n'a pas ajouté ce document à la liste, mais il n'empêche que moi, je vis ici de manière parfaitement légale, je remplis toutes mes obligations depuis plus de 5 ans. Savoir si ce document est acceptable ou non, c'est complètement hors sujet.
Ce que je trouve rigolo avec cet extrait, c'est que ça veut bien dire que l'administration belge considère un peu les eurocrates comme hors sol, donc des espèces d'aliens dans la capitale.
Ah, qui flottent dans une bulle. La justice belge a pensé le contraire et elle a donné raison à Laura Reiner. Laura est devenue belge et elle est aussi devenue une star dans la petite communauté d'eurocrates britanniques de Bruxelles. Depuis le jugement, elle a reçu des centaines de messages de collègues désespérés qui lui demandent conseils sur comment contourner les effets du Brexit. Après, sur la situation des fonctionnaires britanniques dans les institutions, on a eu des clarifications. Ceux qui ont déjà un emploi, qui ont déjà un poste, vont le garder. En revanche, il n'y aura plus de nouvelles embauches, puisqu'il n'y aura plus de Britanniques normalement après le Brexit.
Et donc, ils vont garder ces postes alors qu'il n'y aura plus de députés britanniques. C'est fou, non ?
Bah oui, ils ont des droits acquis. Il y a même une petite spécificité. Il y a certains Norvégiens, dans les années 90, qui avaient déjà été engagés par les institutions. Et quand les Norvégiens ont dit non à l'Europe par référendum, donc ils ont décidé de ne pas rentrer, certains Norvégiens sont restés dans les institutions. On me dit aujourd'hui qu'il en a 7, c'est un peu les derniers des Mohicans.
Et ils font du café et des photocopies.
Non, il y en a qui ont des postes très importants. Alors lui, il n'a pas été embauché dans les années 90, mais un des conseillers de Michel Barnier est norvégien et conseille Michel Barnier sur le Brexit. Comme quoi, tu vois, il y a des anomalies même à Bruxelles.
Donc après les évadés fiscaux français qui veulent contourner l'ISF, après les étudiants en médecine français qui ont raté les concours, voilà que les Anglais sont eux aussi contaminés par la belgitude, si je comprends bien. Bientôt, notre famille royale va être plus populaire que celle de Buckingham Palace. J'ai hâte d'avoir un mug avec le roi Philippe dessus.
Et si on en fait, on en achètera pour l'émission, on prendra thé ensemble.
Génial. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier. Vous retrouverez les dessins de Claire Brault, les liens et tout sur la page Facebook Full Continental, sur franceinter.fr, sur le site de la RTBF, sur Twitter, Insta et tout ça, tout ça. Maxime, t'as des remerciements à faire ?
Comme d'habitude, merci à tous les eurocrates qui ont accepté de me parler et cette fois-ci spécialement à Clément Dagnès de L'Express qui m'a aidé à remonter la trace de Laura Reiner, l'anglaise devenue belge.
Et rendez-vous le 22 mai pour boire des coups, se rencontrer et poser toutes les questions sur les élections auxquelles on n'aurait pas répondu ici. Maxime va y répondre, ce sera au Liberté Living Lab à Strasbourg-Saint-Denis à Paris. L'event est sur la page Facebook. Et pour ceux qui ne peuvent pas être là, laissez-nous vos messages. C'est au 0033 pour les Belges, 01 56 40 53 78, 01 56 40 53 78. On organise cette soirée avec des copains de Mediapart et de Libération. Libération qui d'ailleurs restituera un extrait de cette émission dans ses doubles pages consacrées aux élections européennes lundi. Ce sera l'avant-dernière fois avant les dites élections, le 26 mai. Bonne fin de journée à tous et à la semaine prochaine.